à Dieu. Bonjour et bienvenue à ce glorieux culte du 19 janvier 2025 où nous allons étudier l'œuvre de la foi. Quand on observe les Écritures, nous allons distinguer que la Bible peut être prise sous différents angles. Le chrétien lambda est normal, et c'est sa nature, donc c'est logique, va prendre la Bible sous un angle spirituel et théologique. C'est-à-dire qu'il va dire que c'est la parole de Dieu, donc quoi qu'elle dise, je l'écoute. Alors, j'aimerais qu'on comprenne, la Bible, en tant qu'enfant de Dieu, on a une tendance, et elle est naturelle, de la prendre comme étant la parole de Dieu, la vérité écrite de Dieu, et on vit par elle. Amen. Et c'est très juste, c'est la manière de faire. Cependant, vous devez comprendre que la Bible peut être prise au sérieux dans d'autres domaines. Par exemple, la Bible est la vérité absolue au niveau théologique et au niveau vérité de Dieu. Amen. Mais elle peut aussi être prise, par exemple, comme une vérité au niveau historique. La Bible donne des événements historiques qu'on constate aujourd'hui, et c'est un document historique qui, par exemple, parle des reines de Babylone. Le livre des rois et des chroniques dans la Bible, par exemple, nous donne des informations très importantes sur d'où vient Christ, sur comment a fonctionné l'Empire de Babylone, sur comment a fonctionné l'Empire d'Assyrie. Elle peut être prise aussi sous un côté scientifique, où la Bible apporte des réponses aux questions scientifiques. Elle peut être prise aussi d'un côté philosophique, et la Bible peut être prise comme une source de philosophie et de manière de penser. Je trouve très intéressant que la Bible a traversé des civilisations entières. Vous vous rendez compte que toutes les civilisations, encore aujourd'hui, ont une influence directe venant de la Bible. Et vous dites, par exemple, au niveau purement philosophique et historique, là, même certaines religions ont été créées hors de la Bible. C'est-à-dire qu'elles se sont inspirées de la Bible pour être inventées. L'islam en est une, par exemple. L'islam a été inventé à partir de la Bible, vous savez ça. Hein ? Donc ça veut dire que la Bible a porté une influence que je trouve absolument phénoménale. Donc ce qu'elle a à dire, bien que la question de nous, en tant qu'enfants de Dieu, on l'approche sous la question théologique de Jésus-Christ est Seigneur, point, vous voyez, il faut comprendre qu'on peut aussi l'aborder sous d'autres angles, et sous ces autres angles, elle fait encore beaucoup de sens. Et c'est pour ça que toute personne, c'est des choses sur lesquelles je m'aime à penser, sur lesquelles je médite, sur lesquelles je réfléchis à tellement de choses au niveau historique. Et la Bible a porté un fruit phénoménal, même dans notre manière de fonctionner, dans notre manière en tant qu'être humain d'appréhender les choses. Vous savez ce verset qui est dans Genèse, je crois, chapitre 3. Si on peut juste le prendre, en fait, je vais vous le donner. Il n'est pas dans le message aujourd'hui, mais vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, bien sûr. Les deux frères ennemis. Caïn et Abel. On va juste la lire, si vous êtes d'accord. Parce qu'elle a formé quelque chose au point où on doit réfléchir à qui on est. Et je constate quelque chose dans la Bible. Je trouve très intéressant que l'Ancien Testament a traversé des centaines de civilisations, voire des milliers. Vous savez, dans la Bible, ça vous dit un truc, les rois mages ? Vous savez, les trois gars qui arrivent comme ça avec leurs cadeaux. Bon, déjà, la Bible dit nulle part qu'ils étaient trois. Hein. On a constaté trois parce qu'il y avait trois cadeaux. Et aussi, une erreur que beaucoup de gens ont, ils pensent que les rois mages sont arrivés vers la crèche où il y avait Jésus avec l'âne et tout. C'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible est claire que les rois mages sont arrivés quand Jésus avait environ 2 ans. C'est quand Jésus est né que l'étoile est apparue. Ils ont vu l'étoile et ils ont commencé leur voyage qui a duré 2 ans. Vous voyez ? Ok, ça c'est une petite erreur des fois qu'on voit les rois mages sur la crèche. C'est pas exact. D'ailleurs, la Bible est claire que les rois mages arrivent à la maison de Marie et Joseph, pas à l'étable. Vous voyez ? Mais quelque chose d'intéressant sur les rois mages. Comment ça se fait que des gens hors des juifs, hors d'Israël, ont pu dire « Oh, mais cette étoile signifie la naissance du Messie. » Comment ont-ils pu penser ça alors qu'ils avaient d'autres religions ? Parce que les textes de l'Ancien Testament étaient restés après l'exil à Babylone. Donc les textes prophétiques d'Ésaïe, de Jérémie et tout ça étaient restés et ces mages les avaient étudiés. Et c'est pour vous montrer que la Bible a influencé des civilisations au point que les rois mages d'une autre civilisation sont venus en Israël pour adorer Jésus-Christ. Alors qu'il n'y avait personne qui est venu leur parler spécifiquement. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient étudié les textes anciens. J'en ai pour preuve la première traduction de l'Ancien Testament. C'est en quelle langue ? Vous savez ? Alors il y a la Vulgate que beaucoup connaissent qui est en latin, mais c'est la deuxième grosse traduction de l'Ancien Testament. Ça, c'est... Alors la langue originale, c'est l'hébreu, oui. Non. Elle date d'avant Jésus-Christ, ça dit quoi ? Exactement, le grec. L'Ancien Testament avant Jésus-Christ a été traduit en grec. C'est ce qu'on appelle la Septante. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme. Ce qui veut dire que même l'Empire grec, avant que Jésus-Christ venait, a entrepris de traduire l'Ancien Testament pour comprendre ce qu'ils disaient et influencer leur société avec. C'est quand même quelque chose qu'on y réfléchit, hein. D'accord? Si on peut prendre Genèse. Un instant, s'il vous plaît. Genèse, chapitre, attendez voir, 4, à partir du verset 1. Tu peux mettre tout le chapitre, mon grand, et on va prendre verset par verset. Parce que j'aimerais que vous compreniez que c'est quelque chose en tant qu'être humain, et je me demande pourquoi l'Ancien Testament en particulier a traversé toutes ces civilisations avant que Jésus vienne. Et je pense que l'Ancien Testament aborde la question de la souffrance existentielle d'être. À quel point le fait de vivre et à quel point le fait d'être un être humain est quelque chose de difficile. Et l'apôtre Paul, justement, il dit, le Nouveau Testament nous amène hors de ça. Et une des raisons pour laquelle je pense que l'Ancien Testament a tellement touché de civilisations, c'est parce qu'elle aborde ces questions, elle aborde ces archétypes, elle aborde ces manières de voir le monde. Regardez. Et l'homme connut sa femme, Ève, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère, Abel, et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn apporta du fruit du sol en offrande à l'Éternel. Et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Regardez. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et regardez ce qu'il dit. Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte et son désir sera tourné vers toi et toi, tu domineras sur lui. Donc, ce passage des Écritures est tellement phénoménal. Comment est-ce qu'il peut dire tu domineras le péché à ta porte et toi, tu domineras sur lui? Dites, je domine sur le péché. Regardez. Donc, j'aimerais que vous compreniez une chose importante dans les Écritures. Comment est-ce qu'une histoire si rapide a pu transcender les civilisations au point que dans toute civilisation connue, Éden, qui est donc le jardin d'Éden, est dès crié sous forme d'art, a été peint sous forme d'art. Vous savez qu'on trouve des traces du Jardin d'Éden dans la Mésopotamie, hein? Du Jardin d'Éden. Comment ça se fait que ces histoires ont traversé les siècles? Parce qu'elles sont la vérité, amen. Et elles portent un message de vérité. Mais en Jésus-Christ, on a plus que ça. On a plus que juste des vérités archétypes qui nous permettent de vivre. Non! On a plus que juste de la moralité. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et Jésus-Christ est vraiment venu pour nous donner qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc prenez Luc 4, 25, s'il vous plaît. Luc 4, 25. Nous allons parler de l'œuvre, dites l'œuvre, de la foi. Votre foi est censée porter une œuvre. Luc 4, 25. On va voir des éléments très importants aujourd'hui. Donc soyez bien concentrés, s'il vous plaît. Et faisons les confessions ensemble. Alors là, vous allez voir, c'est une mention de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Et en vérité, je vous dis qu'il y avait plusieurs veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il y eut une grande famine par tout le pays. Donc là, Jésus parle de l'époque d'Élie, où il y a eu une famine. Le ciel fut fermé par Élie. Élie avait fermé le ciel. Si on peut prendre, s'il vous plaît, 1 Roi 17, 1 à 6. 1 Roi 17, 1 à 6. C'est donc dans l'Ancien Testament. Donc là, il fait Jésus-Christ, dans ce passage-là, fait référence à ce passage qu'on va lire dans 1 Roi. D'accord? Et Jésus-Christ dit, il y avait une grande famine à ce moment-là. Et il y avait plusieurs veuves. Et en fait, le point qu'il était en train de faire, c'était, il y a plusieurs veuves, il n'y en a qu'une seule qui a reçu quelque chose de Dieu. Vous vous rendez compte? Il y avait plein de veuves, il n'y en a qu'une seule qui a reçu. Mais j'aimerais que vous voyez que c'était la famine. Et Élie le Tishbite, donc ça c'est dans 1 Roi 17, vous voyez, donc c'est dans l'Ancien Testament, bien avant que Jésus ne vienne. Et Élie le Tishbite, d'entre les habitants de Galaad, dit à Arabe ou à Achab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel vint à lui, disant, va-t'en d'ici. Donc là, regardez le contexte, hein. Il vient de dire, il y aura une famine. Il n'y aura pas de pluie jusqu'à temps que moi je prononce que la pluie soit là. C'est quand même puissant, hein. Et là, il dit, donc Élie dit ça, et l'Éternel vient vers lui et il lui dit, va-t'en d'ici. Et tourne-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit, qui est vers le Jourdain. Regardez ça. Et il arrivera que tu boiras du torrent, et j'ai commandé au corbeau de te nourrir là. Et il s'en alla et fit selon la parole de l'Éternel. Il s'en alla et habita au torrent du Kérit, qui est vers le Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin. Donc la chair, c'est de la viande. et du pain et de la chair le soir, et ils buvaient du torrent. Et j'aimerais qu'on voie quelque chose d'intéressant ici, qu'on a déjà parlé. Il y a un mélange entre quelque chose qui semble complètement naturel, qui est juste un torrent d'eau où il va boire, et un aspect surnaturel où les corbeaux amenaient de la viande et du pain le matin et le soir. Intéressant ça, hein? Donc il y avait un aspect où Élie est comme ça, et Dieu lui dit « va au torrent ». Mais Seigneur, si tu voulais que j'aille boire, t'as qu'à faire pleuvoir chez moi, ou t'as qu'à faire apparaître de l'eau. Non. Dieu a dit « va au torrent ». Et le torrent était entièrement naturel, vous comprenez ? Le torrent n'avait rien de surnaturel, c'était un torrent que Dieu avait posé là. Le torrent n'avait rien de miraculeux, vous comprenez ? Par contre, de l'autre côté, il y avait un acte surnaturel de provision où Dieu avait ordonné à des oiseaux d'amener de la chair, donc de la viande, et du pain à Élie. C'est-à-dire qu'il y avait des oiseaux, Dieu sait comment, Dieu avait dû arranger ça, et les oiseaux amenaient avec leur bec, hop, ils posaient le matin, ils repartaient, et le soir, ils revenaient et ils reposaient. Et pourtant, d'une manière surnaturelle, il y avait toujours ces oiseaux qui amenaient de la nourriture et de la viande. Mais j'aimerais que vous compreniez qu'il y a toujours un mélange, dites, il y a un mélange entre le naturel et le surnaturel. Nous devons comprendre qu'afin de vivre dans les provisions de Dieu, nous devons reconnaître la main de Dieu dans des choses qui semblent naturelles, vous comprenez ? Le torrent d'eau, ça semble naturel, mais vous avez remarqué qu'il n'a pas plu, la Bible précise après, que c'était pendant 3 ans et demi. Et pourtant, ce torrent n'a jamais été asséché une seule fois. Donc il y avait un torrent naturel qui était maintenu comme surnaturellement. Vous voyez un peu l'idée ? J'aimerais qu'on comprenne ce principe, parce que souvent, regardez ça. Nous devons comprendre qu'afin de vivre dans la provision, il y a un mélange entre le naturel et le surnaturel. Si on peut avoir Jacques 2, 14 à 26. Jacques 2, 14 à 26. Parce que vous comprenez que Dieu a l'intention de vous faire marcher dans des bénédictions et des dimensions qui surpassent l'entendement humain. Et comment est-ce qu'il fait ? Il y a deux choses. Mais j'aimerais qu'on aille d'abord regarder Jacques 2, 14 à 26. Parce que Dieu a une manière d'opérer. Et beaucoup de gens sont attirés par l'aspect miraculeux du Seigneur. C'est-à-dire, j'ai un besoin au nom de Jésus. Regardez, la première chose que... Regardez, je trouve ça très intéressant. Très intéressant. Dans le monde... Je sais qu'on avait dit jusqu'à peu qu'il y a des réserves de pétrole pour encore 100 ans, puis après on est foutu. C'est absolument faux. Ils ont trouvé des réserves de pétrole pour encore des millénaires. Vous voyez, vraiment. Hein. Et encore, on n'a pas tout cherché. Hein. Et donc, il y avait des gens qui disent « Oh, j'ai vécu un grand miracle. J'avais plus d'essence dans ma voiture. J'ai imposé mes mains dans ma voiture et elle a fonctionné encore 100 km. Gloire à Dieu. » Et bien sûr que c'est un acte miraculeux. Gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu d'opérer comme ça ? Est-ce que Dieu s'attend à ce que chaque fois que vous avez un problème, ils doivent couper les lois naturelles qu'il a lui-même créées. Regardons. Mes frères, quel profit a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'est pas d'œuvre ? La foi peut-elle le sauver ? Regardez un exemple. Vous confessez la parole de Dieu. Je suis en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Mais derrière, vous mangez n'importe quoi. Regardez, vous pouvez dire que vous avez la foi. Donc là, il parle de confesser la parole, hein. Vous dites que vous avez la foi. Je crois que Jésus-Christ me donne la santé. Mais derrière, vous êtes en surpoids. Vous voyez un peu l'idée ? Je crois que Jésus-Christ me prospère. Et on n'applique pas les principes de Dieu sur les finances. Donc là, il dit, regardez ça. Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'est pas d'œuvre ? La foi peut-elle le sauver ? Et ensuite, au verset 15, il dit, et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours ? Et que quelqu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps. Quel profit y a-t-il ? Donc il dit, vous pouvez proclamer quoi que ce soit sur quelqu'un. Si derrière vous n'agissez pas en conséquence de ce que vous avez proclamé, vous proclamez dans le vide. Donc il dit, vous pouvez marcher dans la foi, gloire à Dieu. Mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je suis prospère. Je suis en bonne santé dans le nom du Seigneur Jésus. Corps, je te commande de fonctionner comme il faut. Mais derrière, on n'applique pas du tout la parole de Dieu sur la santé. Vous savez que la Bible dit que la médisance amène la destruction au corps ? Regardez. L'œuvre du chrétien consiste à croire par les Écritures et à exercer les œuvres résultant de cette foi. Donc vous croyez en quelque chose et vous agissez en conséquence. Et on va en parler parce qu'il y a des agissements qui semblent complètement naturels. Par exemple, Dieu a créé votre corps d'une telle façon qu'il ne répond pas, ok, et qu'il réagit mal à la malbouffe. La nourriture excessive en gras saturé. Si je ne me trompe pas, c'est des gras saturés, c'est juste. Il y a des gras qui sont mauvais pour le corps. Et vous pouvez proclamer la santé tout ce que vous voulez. Si derrière, vous n'appliquez pas la parole de Dieu sur votre corps par rapport aux instructions qu'il donne, vous ne verrez pas la plénitude de ce que Dieu a pour votre corps. Final. Même chose pour la prospérité. Même chose pour les domaines de tous les domaines de vie. Alléluia. Si on peut avoir Matthieu 7, 24 à 27. Parce que j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Matthieu 7, 24 à 27. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. Jésus-Christ nous le montre clairement dans les Écritures. Toute personne construit quelque chose de sa vie. Toute. Toute personne fait quelque chose de sa vie. La question, c'est est-ce qu'il fait quelque chose qui est utile et est-ce qu'il fait quelque chose qui est beau? Regardez une personne, par exemple, qui est complètement dépressive. Il y a des gens comme ça. Hein. Complètement dépressifs. Constamment. Ils ont construit cette dépression. Elle n'est pas survenue sur eux par accident. Elle a été construite soit par eux, soit par des personnes qui ont parlé sur eux. Mais elle a été construite. Vous savez, le diable ne peut rien vous faire si vous ne collaborez pas avec lui d'une certaine manière ou une autre. Les gens construisent, constamment on construit quelque chose. Constamment. C'est un automatisme. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Dès que vous parlez, quelque chose se construit. Regardez ce qu'il dit. Quiconque donc entend ces miennes paroles, c'est un peu du vieux français, mais c'est mes paroles à moi, c'est Jésus qui dit, et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Notez que l'homme bâtit sa maison, ça, c'est un fait. Tous les hommes, tous les êtres humains bâtissent leur maison. Tous les êtres humains bâtissent leur conscience. Tous les êtres humains bâtissent leur pensée, leur manière de réfléchir, leur philosophie. Tout le monde a des... Et il y a des philosophies qui sont construites sur du rien. Et les gens agissent en conséquence. Vous savez, je parlais avec une connaissance que j'apprécie. Et il me disait, ouais, les dés sont lancés. Donc, tout est prévu dans la vie. Je ne peux pas sortir de ma situation. Vous voyez un peu l'idée, ce genre de réflexion? Et on parlait du fait d'avoir de l'argent, n'est-ce pas? Il disait, non, c'est lancé de façon, il n'y a rien que je peux faire, je suis comme ça coincé. Et j'étais voir des chiffres qui m'ont intéressé. Vous serez surpris de savoir, il faudrait que je regarde le chiffre précisément, mais que les millionnaires américains, seulement 8% ont hérité, 92% ont construit leur fortune. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que sur 100 millionnaires, il y en a 92 qui ont construit leur fortune. Je ne sais plus quel pourcentage ont hérité zéro, rien du tout de leurs parents. Et ils ont construit une fortune quand même derrière. Donc je lui expliquais, tu vois, ta réflexion est fausse parce que derrière, Dieu veut que tu prospères, non seulement ça, mais en plus, statistiquement, c'est faux. Les gens arrivent à construire une fortune de rien. C'est possible. Et à cause de la philosophie qu'il a construite, au fil du temps, il a dit non, mais moi, je ne le crois pas. Et comment est-ce qu'on peut... Il a cru le chiffre en soi, on est d'accord, il n'a pas nié le chiffre. Mais tu es là, mais je ne pense pas que ça me concerne. Comment est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? C'est un gars qui est assez baraque. Hein, il a des abdos visibles. Je vous dis ça pour une raison. Je vous dis ça pour une raison. Vous savez qu'il est statistiquement plus probable d'être millionnaire que d'avoir des abdos visibles. C'est une stat basée sur le taux de graisse. Il me semble que le taux de graisse pour avoir des abdos qui commencent à se montrer est de 12% et moins. Et moins de gens sont en dessous de 12% de taux de graisse que de gens millionnaires. Vous vous rendez compte? Donc en plus, si je voulais jouer vraiment avec ce chiffre, c'est très intéressant. Donc ok, dites je suis prospère à tous égards. Et donc là, il dit, il construit sa maison. Mais il y a un autre, il va parler d'un autre gars. Continuons juste au verset 25. Il dit, et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Continuons, verset 26, et il dit, et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. J'aimerais que vous voyez un truc. Ils ont les deux construit une maison. Tous les êtres humains construisent une maison. Qui que vous soyez, vous construisez quelque chose de votre vie. Vous faites quelque chose de votre vie. Vous construisez vos finances. Vous construisez votre santé. Vous construisez votre manière de réfléchir et d'appréhender les problèmes. C'est nous qui construisons cela. Et la Bible est claire. Qui qu'on soit, on va construire. Et il dit, qui a bâti sur une maison sur le sable, et verset 27 qui dit, et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu contre cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Donc j'aimerais qu'on comprenne. Christ nous montre clairement dans les Écritures que tout le monde construit quelque chose de sa vie. La question c'est, est-ce qu'on le construit d'une manière consciente sur les Écritures ou est-ce qu'on le construit également d'une manière consciente hors de la vérité? Vous savez, c'est des réflexions que j'ai avec moi-même des fois. Je pensais à cette chose-là. Si j'avais été un adulte pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, statistiquement, aurais-je été un héros ou un nazi? Statistiquement, hein, nazi, disons-le. Hein. Statistiquement, on aurait été des nazis, la plupart d'entre nous, si on était né en Allemagne. Dans cette... Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'est pas aujourd'hui? Ok? Mais qu'est-ce qui fait... C'est des questions que je me pose. Qui aurais-je été? Comment est-ce qu'un peuple entier a pu partir dans une folie hystérique, insensée et infondée? Pourquoi? Parce que des mots sont venus vers eux. La Bible dit que la parole de Dieu va se tenir devant nous à la fin des temps et on devra répondre du fait de ne pas l'avoir utilisée. Vous savez ça? La Bible est claire. Une fois que vous allez vous tenir devant Dieu, tout le monde se tiendra devant Dieu, qui qu'il soit. Moïse se tiendra devant Dieu un jour. Et nous devrons répondre de ces paroles qui ont été prononcées par la grâce de Dieu, de ce qu'on en a fait, oui ou non. Est-ce qu'on a bâti notre maison? Et j'aimerais que vous constatiez quelque chose. Tant l'homme bon que l'homme stupide, parce qu'il n'est pas méchant l'homme en soi là, la Bible l'appelle insensé, pas mauvais. Vous voyez l'idée? Il n'a pas dit c'est un pécheur. Ça peut être un chrétien cet homme insensé. Hein. Et à contrario, d'une manière très spéciale, l'homme qui construit sa maison sur la parole de Dieu peut être non sauvé, parce qu'il a simplement appliqué les principes de Dieu. Après, Jésus parle du fait des vents et comme ça, il parle d'être sur la terre. Donc, hein. La personne n'est pas sauvée si elle n'a pas confessé Jésus-Christ. Hein. Donc la personne, elle a beau avoir sa maison qui réside sur terre, une fois au ciel, enfin une fois devant le Seigneur, il n'est pas sauvé. Mais il a quand même construit sa vie et sa maison sur la parole de Dieu. Donc ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est ça, c'est que tout le monde construit quelque chose constamment. Constamment, chaque fois que vous dites quelque chose, chaque fois que vous faites quelque chose, vous construisez. Quand vous allez au travail, vous construisez votre vie. Vous allez au travail, vous gagnez 200 francs dans la journée, gloire à Dieu, 250 francs, 300 francs, peu importe votre salaire. Et une partie de ce salaire, vous allez le mettre de côté, si vous êtes sage. Dites « je suis sage ». Une partie de ce salaire, vous allez le mettre de côté. Et sans même le voir, cette journée de travail vous a construit une petite partie de votre épargne que vous allez jouir lorsque vous vous mariez, lorsque vous aurez des enfants, lorsque vous aurez l'achat d'une maison, la retraite. Vous voyez un peu l'idée? Tout ce qu'on fait nous construit. Dites « tout ce qu'on fait me construit ». Psaume 127, verset 1. J'aimerais que vous compreniez que, quelle que soit votre vie, vous pouvez être passif. Vous savez qu'une personne passive construit. Elle construit, elle est en train de construire une maison dans sa vie, selon laquelle être passif est normal. Et ensuite, les vents vont venir contre cette maison et vont briser et réduire à rien son œuvre. Tout le monde construit quelque chose. Parce qu'à force d'être... Vous savez que les gens qui sont oisifs comme ça, sur leur téléphone, à défiler comme ça, scroller, ils appellent ça. Sans arrêt, ça rend leur cerveau oisif. Vous savez ça? Ça rend leur cerveau déconnecté de certaines réalités. C'est mauvais pour le cerveau. Et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est construit. Notre cerveau, Dieu nous l'a donné pour qu'il soit fonctionnel. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc il dit, ces gens construisent une maison, vous voyez? Ils ont une œuvre dans leur vie. Tout le monde a une... J'aimerais que vous compreniez. Quand vous vous posez comme ça et que vous avez une réflexion qui est stupide et qui est hors de Dieu, vous construisez quelque chose avec cette réflexion. Parce qu'elle va commencer à porter du fruit dans votre vie. Vraiment. Si vous êtes assis comme ça et vous dites « Ah, c'est un peu chiant aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller au travail. » Vous vous rendez compte que juste penser ça, ça construit et trace quelque chose dans votre vie. C'est pour ça que la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de vie. » Vous devez garder votre cœur. Gloire à Dieu, dites « je garde mon cœur ». Alléluia. Et maintenant, on va prendre... Nous devons, en tant qu'humains, nous sommes à l'image de Dieu, nous nous rendons compte de ça. Dieu, dès qu'il dit quelque chose, ça crée quelque chose, immédiatement. Que la lumière soit, boum, la lumière fut. C'est pour ça que Dieu ne peut pas mentir. Alors, ce n'est pas dans mon outline. Prenons juste Hébreux 1.3, s'il vous plaît. Juste pour vous faire comprendre quelque chose. Nous sommes à l'image de Dieu, amen. Nous sommes toujours en train de construire. Dites, je construis toujours. Que ce soit par nos paroles, nos actes, nos pensées. Nous pouvons construire quelque chose selon Dieu, avec force, courage et puissance, ou l'inverse. On peut construire quelque chose sans Dieu, et c'est ce que la majorité des gens font. Et au moindre truc, cette chose s'effondre. Ils construisent un mariage sans Dieu, le mariage s'effondre. Ils construisent un business sans Dieu, le business s'effondre, soudainement. La Bible dit, qui étant le resplendissement, donc Hébreux 1.3, donc il parle du Christ là, Christ lui, qui est le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, soutenant toute chose par la parole de sa puissance. Donc il dit la parole de Dieu soutient toute chose. Vous voyez à quel point c'est important, votre parole? Et la Bible dit, telle il est, telle nous sommes dans ce monde, amen. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Il y a le monde naturel. Dites le monde naturel. Il y a le monde naturel. Amen. Le monde naturel est là. Et il y a le monde surnaturel. Notez que le monde surnaturel n'est pas parallèle au monde naturel. Il est au-dessus. Vous comprenez? Donc le surnaturel prend en compte le naturel. Maintenant, le miraculeux est autre chose. Le surnaturel consiste à avoir le monde naturel qui opère d'une manière surnaturelle en notre faveur. Par exemple, la Bible est claire que certaines personnes ont planté des champs et ils récoltent 5-6 fois. Et la Bible dit que, on va le voir, plusieurs personnages bibliques ont récolté 100 fois. Maintenant, il y a le miraculeux. Le miraculeux est une interruption, écoutez bien, une interruption du monde naturel et des lois naturelles dans un cas d'urgence dans lequel Dieu doit régler un problème tout de suite. Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose par rapport à cette différence. Prenons Genèse 1:31, parce que le miracle consiste à une interruption des lois naturelles. Mais Dieu n'est pas friand de cette manière d'opérer. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé le monde naturel. Dieu a créé les lois naturelles. Et Dieu n'est pas friand que nous passions à côté des lois naturelles. Regardez. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Donc ça, c'est la création. Et voici, cela était très bon. Donc Dieu a vu la loi de la gravité. Dieu a vu la loi de l'aérodynamisme. Dieu a vu le système selon lequel notre corps répond plus ou moins à telle nourriture. Dieu a vu ces choses-là. Dieu a vu la manière qu'on doit planter pour récolter. Et il a dit, c'est très bon. OK ? Et j'aimerais qu'on comprenne ça. J'aimerais vraiment qu'on comprenne. Ne pas confondre surnaturel et miracle. Le miracle est l'interruption par Dieu des lois naturelles généralement produites dans un cas urgent. C'est-à-dire que la personne est mourante. Et au lieu que la personne aille dans la parole de Dieu et se construise dans la santé, elle va mourir dans 3 jours. Dieu intervient, bloque, vous voyez, l'aspect naturel de la chose et l'aspect naturel aussi que surnaturel, on se remette dans la santé divine grâce à Dieu. Il bloque ça et il la guérit d'un coup. Vous voyez un peu ? Ou par exemple, une chose, c'est une personne qui a gravement besoin d'argent, au lieu qu'elle sème sa semence spirituelle, qu'elle récolte et qu'elle travaille et que Dieu bénisse l'œuvre de ses mains, Dieu doit faire tomber de l'argent maintenant. Boum ! Vous voyez ? La personne vient et quelqu'un dans la rue vient lui dire « voilà 10 000 balles ». Vous voyez un peu l'idée ? Dieu n'est pas friand de cela. Pourquoi ? Parce qu'il a créé les lois naturelles. Et les surnaturels viennent au-dessus du naturel pour opérer le naturel d'une manière surdimensionnée. Regardez par exemple. Le surnaturel. Un miracle, ce serait « Seigneur, j'ai besoin de nourriture. » La nourriture apparaît comme ça. Le surnaturel consisterait à prendre une pomme, un grain de pomme, le planter, et l'année même, il y a déjà une récolte. Ça, ce serait du surnaturel. Parce que Dieu a quand même opéré avec la graine. Il a quand même opéré avec ce qu'il a créé. C'est juste qu'il a, par exemple, accéléré le processus, vous voyez. Ou par exemple, vous lancez un business, vous avez besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Et l'argent, pouf, apparaît. Alors, je ne pense pas que Dieu fait apparaître de l'argent de nulle part. Hein. C'est toujours quelqu'un qui l'amène. Mais surnaturellement, Dieu doit parler à quelqu'un pour venir prendre à cette personne, pour vous le donner à vous. Vous voyez un peu l'idée ? Ou alors, vous commencez votre business et d'une manière surnaturelle, tout le monde veut votre produit. Tout le monde. Le Seigneur vous dit, ah, appelle cette personne. Vous appelez cette personne, le business est vôtre. Vous faites tel contrat, le business est vôtre, comme ça. Vous voyez ? Et pourtant, ça a l'air normal. C'est juste un truc naturel du business. Mais non, c'est Dieu qui est derrière, qui oriente. Dites Dieu oriente. Regardez ça. Dieu n'est pas très favorable. Pardon. Le surnaturel est la collaboration, l'entrée de la puissance de Dieu dans les lois naturelles. C'est-à-dire qu'il y a une loi naturelle. Tu sèmes, tu récoltes. Mais pourquoi est-ce que vous auriez la même récolte qu'une personne non-croyante ? Non, si vous semez un grain à la place d'avoir 10 comme les autres, vous aurez récolté 1000. Vous voyez un peu l'idée ? Dites je suis surnaturel. Dieu n'est pas très favorable à interrompre les lois qu'il a lui-même créées et qu'il a lui-même déclarées comme très bonnes. Dieu a créé votre corps. Vous savez que votre corps, il y a un aspect naturel dans votre corps. Votre corps répond à certaines choses. Vous mangez cette nourriture, vous avez une inflammation. Vous mangez cette nourriture, vous sentez mieux. Vous mangez cette malbouffe, vous êtes mal pendant, vous avez soif, vous avez mal dormir. Votre corps a été créé pour répondre à certaines choses. Votre esprit, votre pensée répond à certaines choses. Et j'étudiais ça d'une manière plus médicale, que j'ai trouvé très intéressant. Vous savez que la moralité, le fait de ne pas tuer, le fait de ne pas voler, semble bien plus inscrite dans notre corps physique que dans nos mœurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est profond. Ça veut dire que le fait qu'on ne tue pas est inscrite biologiquement dans notre comportement et non pas dans une construction sociale qu'on nous a apprise. Le fait de... Vous savez que les gens aveugles sourient? Mais pensez-y, ça veut dire qu'on ne leur a pas appris, hein? Vous voyez? Comment ça se fait? Parce que c'est ancré en nous. Dieu nous a créés avec ça à l'intérieur de nous. Dieu nous a créés avec... Regardez, messieurs, laissez-moi vous aider avec quelque chose, messieurs. Les femmes aussi, ça vous concerne, mais particulièrement, messieurs. Si un homme tombe en dépression, c'est parce qu'il ne fait pas ce que Dieu l'a appelé à faire. Point final. Si une femme tombe en dépression, même chose. Elle ne fait pas ce que Dieu l'a appelé à faire. Parce que Dieu a créé notre corps d'une telle manière que quand on fait ce que nous devons faire, nous répondons avec joie. Regardez, j'ai vu une statistique qui m'a fait un peu sourire. Les mamans, donc les femmes qui ont des enfants, sont plus heureuses en moyenne que les femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est quand même curieux ça. Les hommes, pareil. Après, les hommes, c'est plus tard que ce décalage se manifeste. C'est vers 40 ans et poussière. Les femmes, c'est déjà vers 25 ans. Les hommes qui n'ont pas d'enfants vers 40 ans sont malheureux, en moyenne. Et quel est le premier commandement que Dieu a donné aux hommes et aux femmes? De se reproduire et de faire des enfants. Pourquoi? Parce qu'il sait, il a mis ça en nous. Dit Dieu a mis ça en moi. Regardez. Genèse 26, 12 à 14. Genèse 26, 12 à 14. Regardez. Regardez ce que Dieu dit. Parce que je trouve très intéressant que ces hommes dans la Bible étaient extrêmement bénis. Et la Bible est claire que c'était la bénédiction du Seigneur qui les a rendus riches, tellement riches. Regardez. Et Isaac sema dans cette terre et il recueillit cette année-là le centuple et l'Éternel le bénit. Et l'homme grandissait et il allait en grandissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort grand. Et il eut des troupeaux de menu bétail. Donc, c'est les petites bêtes, par exemple les brebis, les petits comme ça. Et des troupeaux de gros bétail, donc là on parle de vaches et comme ça, et beaucoup de serviteurs, et les Philistins lui portèrent envie. Donc en fait, j'aimerais que vous compreniez que l'ensemble d'un peuple a porté envie à un seul homme. Ça veut dire que cet homme était tellement riche, Dieu avait tellement fait fonctionner les lois naturelles d'une manière surnaturelle pour lui, ok, vous comprenez, qu'un pays entier était jaloux de lui. Imaginez, vous êtes tellement riche qu'un peuple entier est jaloux de vous, d'une ville entière est jaloux de vous. Une ville entière, alléluia, gloire à Dieu. Dit Jésus prospère à tous égards. Donc, on doit comprendre qu'il y a ce mélange entre ce qui semble être naturel et ce qui est surnaturel. Regardez, il y a des gens qui veulent prospérer dans leurs finances. Gloire à Dieu, Dieu veut que vous prospériez, Dieu veut que vous soyez riches. Et il y a une manière d'arriver à ça. Vous pouvez prier tout ce que vous voulez, zapakashata, je commande à l'argent de venir. C'est juste de faire ça, n'arrêtez pas. Cependant, vous devez agir en conséquence des instructions bibliques que Dieu donne sur l'argent. Même chose pour la santé. Regardez, Dieu donne des... Franchement, au niveau de l'argent, Dieu est quand même doux parce qu'il donne deux instructions extrêmement simples pour prospérer. Extrêmement simples. Donner sa dîme, mettre 20% de côté. C'est tout. C'est les seules instructions qui sont imposées. On se comprend parce qu'on n'est pas sous une loi. Vous voyez, si on ne le fait pas, Dieu ne va pas nous courir après. Hein. Dieu ne va pas nous courir après si on ne donne pas sa dîme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu n'est pas fâché contre vous. Dieu ne va pas stopper la bénédiction, c'est nous qui la stoppons. Et Dieu donne deux instructions extrêmement simples. Et je suis peut-être un peu catégorique, mais si Dieu donne ces instructions, c'est comme ça et c'est tout. Quel qu'en soit le prix. Si vous devez partir à un appartement plus petit, passez à un appartement plus petit. Si vous devez renoncer à une voiture, renoncez à votre voiture. Si Dieu donne cette instruction, on le fait et on commence par prospérer, c'est tout. Si Dieu donne des bonnes instructions, c'est tout. Alors, et souvent, je regarde un peu, vous savez, j'aide les gens avec leur budget, hein. J'aide des gens à faire des budgets régulièrement. Si vous saviez le nombre d'argent qui est jeté par la fenêtre, vraiment, hein. Et quand je dis jeté par la fenêtre, j'entends d'une manière bête et irréfléchie. Hein. Aller au resto tout le temps. Vous savez qu'il y a des gens qui dépensent dans le resto? Énormément d'argent. Mais derrière, c'est pas mal d'aller au resto. Dieu n'est pas contre le fait. Mais si Dieu donne l'instruction, regardez, si vous avez un salaire de X francs, la première réflexion c'est 10%, c'est la dîme, pour le vœu de Dieu. 20%, je le mets de côté. C'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'on croit la Bible ou pas? Ensuite, à vous de calculer votre revenu par rapport aux impôts et tout ça. Et ensuite, le reste, est-ce que vous avez le droit de dépenser sur le mois? Point final. C'est simple. S'il vous reste 3000 sur le mois, ce serait irréfléchi de prendre un leasing à 1200 francs. On est d'accord? Vous voyez un peu l'idée? Donc, Dieu donne des instructions sur comment structurer nos finances. Dieu donne des instructions sur comment structurer notre santé. Vous saviez, ça amène. Dieu donne des instructions sur comment structurer notre santé. Et donc, on ne peut pas s'attendre à vouloir vivre dans le surnaturel si on n'applique pas les lois naturelles que Dieu a déjà créées et par lesquelles il nous a déjà instruits. La Bible dit « Ne devez rien à personne ». au niveau de l'argent. Vous savez que la Bible dit ça? Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Alors là, vous dites, ok, alors je ne m'attends pas si vous avez 100 000 francs de dette que vous les régliez d'un coup, bien sûr que non. Mais vous devez travailler pour les régler. Faites quelque chose pour les... Est-ce qu'on croit la parole de Dieu ou pas? Dieu donne des instructions qui fonctionnent, je vous le garantis. Je l'ai fait dans ma vie et ça fonctionne toujours. Je suis toujours plus prospère que je l'étais avant. Je suis toujours vers l'avant, vers le haut. Pourquoi? Parce que j'obéis aux Écritures. Alors moi, mon business, par exemple, plan fait que je dois mettre plus de côté que 20%. Parce que c'est la manière dont on fait, c'est ce qu'on appelle les standards de l'industrie. On met une partie dans ce qu'on appelle des comptes de caution et comme ça. Donc, je mets plus de côté que 20%. Mais la chose étant, c'est qu'il y a un minimum que Dieu fixe. Pourquoi on ne l'applique pas? Et après, on s'étonne de ne pas marcher dans ce que Dieu a pour nous. Et donc, imaginons que quelqu'un a des dettes. Vous prenez et vous regardez, ok, Dieu ne veut pas que je sois dans les dettes, donc je vais régler ça d'une manière surnaturelle. Vous dites, dans le nom du Seigneur Jésus, des idées business me viennent. Alléluia. Vous voyez, des idées business me viennent. Des idées surnaturelles sur comment faire de l'argent. Et ensuite, vous structurez votre budget. Vous dites, ok, 10% vers le Seigneur, toujours. Et ça, c'est le premier truc. 20% de côté minimum. Vous pouvez faire plus que 20%, bien sûr. Ensuite, calculez vos impôts. Ok, je donne le temps d'impôt. Il reste temps à la fin du mois. Pour l'instant, je vais vivre de ça. Pas plus, pas moins. Vous voyez un peu l'idée? C'est comme ça qu'on fait. Et ensuite, vous dites, voilà, il y a tant de francs de dette, j'ai envie de les régler en tant de temps. Je mets de côté, n'est-ce pas, par exemple, dans un fonds avec un investissement. Je rembourse dès que je peux. Je sors des dettes. Alléluia. Dites, je sors des dettes surnaturellement. Dites-le, je sors des dettes surnaturellement. Regardez, Dieu veut ça pour vous. Mais Dieu a donné des instructions. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de dettes, et gloire à Dieu si c'est le cas, ne vous mettez pas sous des dettes. Si un cas urgent, allez voir une personne. Parce que la Bible dit, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Donc, si vraiment vous devez emprunter parce que vous êtes dans une situation difficile, allez voir quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une confiance, qui ne va pas utiliser son statut de maître pour vous assujettir et vous écraser. D'accord? Je peux comprendre qu'il y a des urgences des fois à régler, mais Dieu n'a pas prévu ça, amen. Dites, Dieu a prévu la bonté pour moi. Donc, moi, ma réflexion, c'est ça. Ok, Dieu a donné des instructions sur comment vivre par ses finances. Je les applique, point final. Pas de questions posées. Je ne sais pas à quel point on veut être radical sur ça, mais si vous voulez voir ce que Dieu a pour vous, et Dieu a des choses merveilleuses pour vous, on doit vivre et appliquer ces choses. C'est simple de dire, dans le nom de Jésus, les finances viennent à moi. Et c'est quelque chose de juste. Soyez dans l'expectative que les finances viennent à vous. Soyez-le. Vraiment, priez sur ça. Par rapport à la santé, ce n'est pas pour pointer du doigt. Mais la Bible est claire. Vous savez que les péchés sexuels amènent des maladies? La Bible le dit extrêmement clairement. Et j'ai vu une statistique. Les homosexuels, c'est moins de 4% de la population. C'est plus de 40% des infections du VIH. Vous vous rendez compte? Vous pensez que c'est un hasard? Non, c'est pas Dieu qui est là. Ouais, les homosexuels, je leur donne le sida. Bien sûr que non. Mais Dieu a donné une règle. Le corps humain n'est pas fait pour aller coucher avec le premier venu, la première venue, point. Et après, les gens pratiquent ces choses et s'étonnent d'être malades. Et derrière, ils peuvent même dire, dans le nom du Seigneur Jésus, je suis guéri. Oui, c'est bien, gloire à Dieu, Dieu peut intervenir en ta faveur. Mais si derrière, vous prenez votre corps et vous le traitez mal, vous allez pas du tout vivre ce que Dieu a pour votre corps. Donc, il faut comprendre qu'il dit bien, dans Jacques, n'est-ce pas, 2, il dit, vous pouvez dire avoir la foi, c'est bien. Mais si derrière, vous n'agissez pas en conséquence, vous ne profiteriez pas de ce que vous prétendez avoir. Il dit, la foi sans œuvre est morte. Donc, comprenons ça, s'il vous plaît, comprenez ça avec ferveur et puissance. Dieu veut votre réussite et vous devez appliquer un aspect spirituel, donc surnaturel, et un aspect naturel, mais vous devez prendre en compte l'aspect naturel. Dieu ne va pas... Dieu a donné pour des raisons l'aspect naturel. Vous ne savez pas, vous mettez de l'argent de côté et soudainement, on vous propose d'acheter une maison au moitié prix. Vous dites, gloire à Dieu, au nom de Jésus, j'achète cette maison cash. Vous voyez un peu l'idée? Vous ne savez pas, vous mettez de côté, vous avez peut-être des dettes. Mettez quand même 20% de côté. Hein. La Bible n'a pas dit, mettez pas de côté tant que vous avez des dettes. Hein, n'est-ce pas? La Bible ne dit pas ça. Vous mettez de côté, vous avez des dettes. D'un coup, le débiteur vous appelle. Ah, finalement, vous nous devez 10 000 francs. Pour 3 000 francs, on annule la dette. Si vous payez aujourd'hui, ça nous arrange, 3 000 francs. Vous payez les 3 000 francs, hop, ils vous annulent la dette entière. Vous imaginez un peu? Tout ça parce que vous avez mis de côté. Dites, Christ est roi de ma vie. Proverbe 4. 1 à 2. Écoutez ces instructions. Dieu donne des instructions. Dites, Dieu m'a donné des instructions. Et m'a énergisé pour la victoire. Parce que Dieu veut que vous prospériez. Et si vous n'appliquez pas les principes de Dieu dans votre vie, vous avez beau avoir la foi pour vivre ce que Dieu a pour vous, si vous ne faites pas des choses en conséquence de cette foi, et les choses les plus simples, elles sont physiques, c'est ça qui est marrant. Vous voyez ? Vous dites pas, c'est meurtrissure, j'ai été guéri, gloire à Dieu. Est-ce que vous prenez soin de votre santé ? Est-ce que vous faites du sport ? Est-ce que vous étirez un peu les muscles, tout ça ? Vous voyez ? Allez. Proverbe 4, 1 à 2. Regardez ce qu'il est dit. C'est quelque chose d'absolument phénoménal parce qu'il y a des instructions qui viennent à vous. Des instructions simples. Fils, écoute l'instruction d'un père et soyez attentif pour connaître l'intelligence. Écoutez bien. Car je vous donne une bonne doctrine. N'abandonnez pas mon enseignement. Donc il y a un enseignement qui vient vers vous. Un enseignement qui vient vers vous. Vous devez l'appliquer à des lois naturelles que Dieu a créées. Et il explique comment opérer dans ces lois naturelles. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 1 et verset 6. Vivez dans ce que Dieu a pour vous. Arrêtez de renoncer par votre comportement à vivre ce que Dieu a pour vous. Dieu s'attend que vous agissiez en conséquence de votre foi. Amen. Dieu vous a donné des instructions. Faites-le, faites-le. Quel qu'en soit le prix. Non, mais je suis sérieux. Quel qu'en soit le prix. Ça veut dire que vous voulez prendre les transports publics un moment ? Faites-le ! Ça veut dire que vous devez renoncer à telle marque de maquillage, mesdames ? Faites-le ! Messieurs, vous devez renoncer à vous acheter des nouveaux vêtements ? Faites-le ! Vous devez renoncer à aller au restaurant ? Faites-le ! Vraiment sérieux. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Notez qu'il n'a pas dit « nous ne disons pas la vérité », il a dit « nous ne pratiquons ». Ce qui veut dire que la vérité se met en pratique. La vérité se pratique. Donc la Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Oui, Seigneur, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mon corps est imperméable à la maladie. Ça, c'est l'aspect surnaturel, vous voyez. Un virus essaie de se mettre là, hop, il n'arrive pas à rentrer. Vous voyez. Mais par contre, en même temps, vous dites, non, dans le nom du Seigneur Jésus, je refuse de manger ces nourritures qui m'amènent de la destruction. Je refuse de mal gérer mon sommeil, par exemple. Il y a des gens qui gèrent très mal le sommeil. Vous savez, je ne suis pas contre le fait de dormir peu, hein. Ce n'est pas ça mon problème. Il y a des gens qui gèrent leur sommeil d'une manière irréfléchie. C'est-à-dire qu'ils vont se coucher à 6h du matin et ils se réveillent vers midi. Vous savez qu'il y a une étude qui a été faite intéressante. Les heures de sommeil pendant la nuit ont plus de valeur que les heures de sommeil pendant le jour. Vous savez ça? Notre corps se repose bien mieux quand il fait nuit, même si on a les stores fermés en journée. Notre corps est conscient que c'est la journée et il se repose moins. C'est quand même curieux, hein? Dans vos finances, dans votre gain d'âme, dites je gagne des âmes. Dans le gain d'âme, vous avez vu le Rhapsody, je crois, de dimanche passé, où il expliquait la responsabilité. Ou est-ce que c'était mercredi plutôt ? C'était mercredi, je pense. La responsabilité qu'on a pour les âmes. Amen. Dites je suis fort et plus que vainqueur. Et j'applique ce que Dieu a pour moi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez, commencez à appliquer ces choses. Commencez à appliquer ces choses sur votre santé. Si vous ne faites pas sport, commencez le sport, ne serait-ce que 5 minutes. Le matin, vous étirez, vous faites des étirements. Peu importe, faites quelque chose de votre corps. Faites quelque chose de votre argent. Comment ça se fait que tellement de chrétiens ne marchent pas dans ce que Dieu a pour eux, mais ils savent que Dieu veut qu'on prospère? Comment c'est possible? Parce qu'ils passent à côté de ce que Dieu donne comme ordre. Si Dieu dit, donnez 10%, mettez 20% de côté, c'est oui, Seigneur, point final. Si Dieu donne cette instruction, et cette instruction, si jamais elle date, combien de temps avant Jésus-Christ, vous pensez? À peu près 2000 ans. 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc ces instructions ont 4000 ans et elles ont traversé des siècles, des millénaires plutôt, et elles ont traversé des civilisations, des cultures, des langues. Et si les gens l'ont fait et l'ont refait, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une raison? Dites, je prospère à tous égards. Et j'applique les instructions de Dieu pour mes finances. Les instructions de Dieu sur mon corps. Les instructions de Dieu sur mes pensées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.